Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient comme tous les jours à cette heure-ci. RFI vous donne la parole. Nous sommes vendredi, c'est donc la libre antenne, l'occasion pour vous tous de réagir à l'actualité de votre choix, de revenir sur tous les événements qui vous ont marqué cette semaine. Vous êtes évidemment encore très nombreux ce matin à souhaiter réagir aux attentats de Paris et aux mesures annoncées par François Hollande, par le gouvernement français pour renforcer la sécurité du pays. D'autres sujets ont également retenu votre attention. On aura certainement l'occasion de parler de la Centrafrique. Vous êtes quelques-uns à nous appeler de Bangui. Bangui, où l'on attend évidemment avec impatience l'arrivée du pape François, malgré la situation sécuritaire particulièrement tendue. Des réactions également sur le scrutin historique au Burkina Faso. La présidentielle, c'est dans une semaine. La pression de la communauté internationale sur le président burundais suscite également des commentaires au Standard et sur la page Facebook de l'émission. La situation au nord du Mali, le processus électoral en République démocratique du Congo. Là aussi, vous êtes quelques-uns à souhaiter prendre la parole. On va tenter évidemment, comme tous les jours, de donner la parole au plus grand nombre d'entre vous. Et on va, comme tous les matins, commencer cette émission avec vos questions à la rédaction. Des questions pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. Un seul numéro pour nous rejoindre. Vous composez le 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous êtes en France. Je vous parlais à l'instant de la visite du pape en Centrafrique. Elle suscite des réactions, mais aussi des questions. Bonjour Henri.
Bonjour
Henri.
Bonjour Johan.
Vous êtes à Bangui, en Centrafrique. Il y a un léger décalage sur la ligne téléphone, mais c'est normal. Quelles sont vos questions, Henri ?
Mes questions, pourquoi Paris est contre la venue du pape en Centrafrique ? Le Vatican a-t-il réagi aux déclarations du ministre de la Défense française ? Quelles pourraient être les retombées de la venue du pape dans les processus de la paix en Centrafrique ?
Alors, soyons précis, Paris n'est pas contre la visite du pape François dans votre ville, mais c'est vrai que cette visite est qualifiée par le ministère français de la Défense comme une visite risquée. Bonjour Antoine-Marie Zohar.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous, vous êtes le correspondant d'RFI au Vatican. Visite risquée, évidemment, au regard de la situation sécuritaire, mais pour l'instant, soyons précis, Antoine-Marie Zohar, cette visite qui est prévue dans tout juste 9 jours est toujours d'actualité.
Ah oui, effectivement. Alors c'est l'entourage, effectivement, pour être très précis, du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui récemment, lors d'un séjour à Dakar, a récemment fait savoir à quelques journalistes, alors c'est évidemment pas involontaire, que la France avait communiqué avec les services de sécurité du Vatican il y a déjà un petit moment, afin de faire état des risques de cette visite. Alors qu'on le sait, hein, les violences entre chrétiens et musulmans ont récemment repris et font chaque semaine des victimes. Là-bas, 900 soldats français assurent la sécurité sur place, et puis des milliers d'autres de la MINUSCA, la Force des Nations Unies. Et pour autant, il s'agit, a dit Paris, d'une visite à haut risque, et cela à quelques semaines d'élection. On reconnaît en France que le pape est souverain, évidemment, et qu'il peut décider au final s'il doit se rendre à Bangui. Mais on insiste aussi pour dire, hein, Juan, que ça n'est pas tant la sécurité du pape lui-même qui est en jeu et qui peut être assurée par des dizaines, des centaines, voire de soldats, mais celle des nombreux fidèles qui viendront à sa rencontre, des fidèles de Centrafrique, mais aussi des pays voisins.
Effectivement, du Cameroun, du Congo-Brazzaville, on attend des centaines de milliers de chrétiens sur les routes, des routes qui ne sont pas balisées malgré la présence effectivement des casques bleus de la force française Sangaris, 900 hommes. Comment le pape François réagit-il ? Le pape François, on le sait, ne veut pas mettre en danger les foules qui viendront le voir. Quelle est la réaction pour l'instant du Vatican ?
Ah, écoutez, pour l'instant ici, tout est fait comme si le pape se rendait bien en Centrafrique les 29 et 30 novembre, après être passé par le Kenya et l'Ouganda, il faut le dire. Hier, comme d'habitude, le porte-parole du Vatican nous a présenté en salle de presse au Vatican le programme complet, parce que j'aurai le privilège, Juan, pour RFI, entre autres, d'être dans l'avion du pape, comme chaque fois, pendant ce voyage, très intéressant, voyage de 6 jours, et on nous a proposé un programme tout à fait complet, en nous disant, écoutez, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, le pape fera toutes les étapes de ce voyage, évidemment, sous-entendu en Centrafrique en particulier. On sait aussi qu'un groupe de la gendarmerie vaticane et le commandant, de façon assez exceptionnelle, de la gendarmerie vaticane s'envolent ce matin de Rome pour Bangui, pour y passer quelques jours, évidemment, pour un état des lieux et décider peut-être éventuellement de changements de dernière minute. Mais le Vatican ne souhaite pas renoncer. On nous dit ici, si le pape n'y va pas d'une certaine façon, ça serait un échec. Et puis on s'étonne aussi un peu du fait que la France ait carrément dit qu'elle voulait se décharger d'une certaine façon de sa responsabilité. Alors, on ne réfléchit pas vraiment à l'opportunité d'annuler cette visite qui durera 26 heures, mais peut-être de la circonscrire à quelques heures pour une messe, par exemple, sur le terrain sécurisé de l'aéroport. On ne sait pas encore ce qu'il en sera.
Alors, le programme est connu. Le pape a prévu d'y rester 26 heures. Quelle retombée pourrait avoir la visite du pape dans le contexte actuel de la Centrafrique, voire même dans le processus de paix? Il a prévu de rencontrer aussi bien des chrétiens que des musulmans.
Oui, alors c'est difficile, hein, évidemment, Juan, de dire quelles sont les retombées, de prédire aussi, évidemment. Et puis je suis loin d'être un expert de l'Afrique, mais plus du côté pape François et Vatican. Ce qu'on sait, c'est que le pape, il entend là-bas prêcher la paix, le dialogue entre les religions, c'est important en ce moment en particulier, et là-bas. Évidemment, on nous dit d'ailleurs, rien n'a changé après les attentats de Paris. Enfin, je veux dire, le prêche pour la paix, pour le dialogue entre religions n'a pas changé, au contraire, et le pape continuera de l'effectuer à travers le monde et en Centrafrique en particulier. C'est difficile de savoir ce que le pape arrivera à faire entrer dans le cœur des hommes qui se battent en ce moment à Bangui et ailleurs. On sait qu'ailleurs, des visites pontificales, Juan, ont permis des initiatives de paix, des gestes inattendus d'opposants historiques, mais j'ai aussi vu la situation contraire, c'est-à-dire se dégrader après coup pour les catholiques. Alors, pour parler en bref du programme, vous l'avez évoqué, il est construit pour tisser des liens entre les communautés. Le pape doit célébrer la messe, évidemment, dans la cathédrale catholique de la capitale de République centrafricaine, mais aussi dans un stade, ce qui est assez périlleux. Mais il doit aussi rencontrer les communautés évangéliques du pays et les responsables musulmans dans une mosquée. Il faut savoir que là-bas, depuis le début des violences interconfessionnelles, l'imam, l'évêque et un responsable évangélique se serre les coudes et physiquement, visiblement, et marche ensemble pour la paix. Et puis le pape, il entend aussi, pour finir, visiter un camp de personnes déplacées qui fuient les violences des milices, un camp qui est dans Bangui, pas très loin de la Nonciature, si je ne me trompe pas.
Visite à haut risque, donc, pour le pape François la semaine prochaine à Bangui. Merci Antoine-Marie Izoard. On vous retrouvera évidemment tout au long de cette tournée africaine du pape François, tournée qui commencera, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est mercredi, donc par le Kenya, ensuite l'Ouganda et troisième et dernière étape, donc Bangui, la capitale centrafricaine. Bon courage à vous, Henri, merci de nous avoir appelé de Bangui. On repasse au standard avec Edbert, voilà, j'y arrive. Je crois que c'était Herbert, non, c'est Edbert, c'est ce que je lis sur ma petite fiche. Bonjour Edbert.
Bonjour Juan Gomez, bienvenue chez nous à Parakou.
Parakou, au nord du Bénin, vous avez des questions, vous, sur cette rencontre historique, cette poignée de main historique entre les présidents chinois et taïwanais?
Oui, Juan Gomez, il y a deux semaines, les Chinois et Taïwanais se sont rencontrés à Singapour. Cela fait des années que les relations sont tendues entre ces deux pays. Alors, ma première question, qu'est-ce qui est à l'origine de ça entre les deux dirigeants? Qu'est-ce qui a provoqué cette rencontre et cette volonté de discuter?
Ouais, rappelons tout de même que Taïwan s'est séparé de la Chine il y a maintenant 66 ans. Le problème, c'est que Pékin continue toujours à considérer Taïwan comme une partie inaliénable de la Chine. Bonjour Ake Schmidt.
Bonjour Juan et bonjour Edbert.
Vous êtes la correspondante d'RFI à Pékin. Comment expliquer ce sommet historique entre les deux présidents?
Bon, alors, je ne veux pas vous décevoir d'entrée de jeu, mais il n'y a pas la moindre déclaration officielle qui nous dit ce qui a véritablement provoqué ce sommet. C'est en effet un sommet historique, car c'était la première poignée de main entre les dirigeants 66 ans après la victoire des communistes de Mao et l'exil taïwanais des nationalistes du Kuomintang. Alors, l'une des raisons pour ce sommet est peut-être purement pratique. Le président Xi se trouvait à Singapour pour une visite officielle et Singapour a toujours été un terrain neutre pour les deux frères ennemis. Déjà en 1993, la toute première rencontre de haut niveau a eu lieu à Singapour. Et puis, il faut savoir que le réchauffement entre les deux rives du détroit de Formose ne date pas d'hier. Le dégel a en effet commencé après ou avec l'arrivée au pouvoir du président Ma Ying-jeou, qui est lui issu du parti nationaliste du Kuomintang. C'était en 2000. De nombreux accords ont déjà été scellés, surtout des accords commerciaux. La Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial de Taïwan et l'île profite depuis des années aussi d'un boom touristique en provenance de la Chine, depuis notamment que des vols directs lient Taïwan au continent.
Alors Edbert nous demandait pourquoi maintenant faut-il y voir peut-être des raisons politiques. On sait que Taïwan est en pleine campagne présidentielle.
Oui, tout à fait. Donc le moment choisi pour ce sommet est particulièrement propice, surtout pour l'actuel président taïwanais, parce que justement en janvier prochain, des élections présidentielles auront lieu et on peut s'imaginer que le président Ma tente ainsi de redorer son blason. Il est au plus bas aujourd'hui dans les sondages et une telle poignée de main hautement symbolique pourrait éventuellement, avec un peu de chance, relancer cette campagne électorale. Ce qui arrangerait d'ailleurs Pékin, puisque le Kuomintang KMT est aujourd'hui beaucoup plus proche de la Chine que de l'actuelle opposition. Le Kuomintang qui a officiellement reconnu le concept chinois d'une seule Chine, contrairement à l'opposition qui, elle, est beaucoup, beaucoup plus hostile à l'idée d'un rapprochement. Le Kuomintang et le Parti communiste se retrouvent donc en quelque sorte dans une alliance de circonstances contre une éventuelle indépendance de Taïwan et ils font aujourd'hui front commun contre un sentiment populaire anti-chinois. Beaucoup de Taïwanais et de craignent le fait que Taïwan soit de plus en plus.
Oui, le réseau se dégrade, mais c'est vrai que la majorité des Taïwanais sont attachés au statu quo actuel, c'est-à-dire ni réunification, ni indépendance, ni recours à la force. Il faut rappeler quand même que 1600 missiles chinois sont toujours braqués et pointent toujours sur ce que la Chine, Pékin, considère comme la province rebelle, Taïwan. Heike Schmidt, le réseau s'est dégradé avec Pékin. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite évidemment une bonne fin d'après-midi à Pékin, sur place. Edbert, merci à vous de votre fidélité à Parakou. On va parler maintenant de la lutte contre le réchauffement climatique. Dans 10 jours, c'est le début de la COP21, la conférence climat qui se tiendra ici à Paris. Bonjour Martin.
Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Vous nous appelez de Yaoundé au Cameroun, nous vous écoutons.
Voilà, en prélude à cette conférence, la Chine, grand pollueur de la planète, a annoncé une contribution très ambitieuse de sa part dans la réduction de l'émission de CO2. Cependant, il y a une semaine, John Kerry, le secrétaire d'État américain, fait savoir que l'accord qui pourrait émerger de cette conférence-là ne sera pas contraignant. Donc, j'ai deux questions. La première, c'est les États-Unis ne s'engageront-ils pas sur la limitation de la hausse de la température à 2 degrés?
Ah, bonne question. C'est vrai que les propos de John Kerry ne sont pas restés, ont suscité polémique. Ils n'ont pas laissé indifférent surtout les organisateurs ici à Paris. John Kerry qui a prévenu qu'il ne signera pas un traité juridiquement contraignant avec des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Bonjour Pascal Canfin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes expert climat chez World Resources Institute. Vous êtes ancien ministre délégué au développement et vous publiez aux éditions Les Petits Matins Climat, 30 questions pour comprendre la conférence de Paris. On comprend la question de notre auditeur. On se souvient que Barack Obama avait annoncé il y a quelques mois un plan pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Dans les propos de John Kerry, faut-il y voir plutôt un revirement de la position américaine ou plutôt une gaffe ?
En fait, c'est tout simplement la confirmation de la position américaine. La position américaine, du point de vue juridique, est assez simple. Barack Obama n'a absolument pas de majorité politique pour faire ratifier un traité international ou ce qu'on appelle également un protocole. Il n'a pas de majorité au Congrès. Vous savez que le Congrès est dominé par les Républicains. Et donc, il faut absolument que l'accord de Paris ne soit pas un protocole, sinon il doit être ratifié par le Congrès, et on sait que cela échouera, et si les Américains ne sont pas partie prenante à l'accord, au final, les Chinois reprendront leur bille, et l'accord de Paris sera morné. C'est pour ça que John Kerry était très clair sur ce dispositif, mais ce n'est absolument pas une surprise, puisque en fait, tous les juristes qui travaillent sur cet accord climat depuis maintenant 2 ans, travaillent sur une forme juridique qui va permettre à Barack Obama non seulement de signer l'accord, bien évidemment, mais de le ratifier lui-même par décret présidentiel. C'est un peu subtil, mais si on veut que politiquement il y ait une participation des États-Unis à cet accord, il faut contourner le Congrès américain dominé par les Républicains. Et donc, il faut que Obama signe et ratifie cet accord par décret, ce qui veut dire qu'un certain nombre d'objectifs, et c'est pour ça que John Kerry a dit qu'il n'y aura pas d'objectifs chiffrés dans l'accord, ces objectifs chiffrés seront à côté de l'accord dans une déclaration politique qui ne sera pas dans la partie contraignante de l'accord. Donc, en fait, il n'y a rien de nouveau dans la déclaration. C'est pas un revirement, c'est pas un retour en arrière. C'est simplement une précision d'une position. Et comme ça a été dans le Financial Times, que ça a été repris par les médias de par le monde, ça a suscité une polémique. Mais en fait, derrière cette polémique, il n'y avait rien de nouveau.
Oui, il n'y a rien de nouveau. Mais en même temps, François Hollande a quand même rappelé qu'il voulait, lui, un accord contraignant.
Il a raison, c'est-à-dire que à la fois l'accord de Paris, qui n'est pas encore signé, encore faut-il le trouver, mais faisons l'hypothèse que nous le trouvons, j'ai bon espoir, eh bien, cet accord ne sera pas un traité ou un protocole, ça c'est la partie, je dirais, pour satisfaire à l'enjeu politique américain, mais en même temps, ce n'est pas parce que cet accord n'est pas un traité qu'il n'est pas contraignant, et un exemple très précis, très récent, c'est l'accord avec l'Iran. L'accord qui a été passé sur le nucléaire iranien n'est pas un traité international. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a pu être signé et ratifié par Barack Obama sans passer par le Congrès. Là aussi, il n'y avait pas de majorité politique pour valider cet accord. Pour autant, chaque partie considère qu'elle est engagée par cet accord avec des mécanismes de vérification, avec des scientifiques qui vont aller sur place, etc. Mais finalement, l'accord de Paris va ressembler un petit peu à ça, c'est-à-dire que ça va être beaucoup de procédures, de vérification, d'engagement, de cycles, etc. Mais tout ce qui sera chiffré, tout ce qui sera réduction d'émissions de CO2, et les États-Unis se sont engagés à faire moins 26 à moins 28% de réduction de CO2, ça n'a pas du tout été remis en cause par John Kerry, ce sera à côté de l'accord, dans un paquet plus large. Donc il n'y a rien de nouveau, et ça n'est en aucun cas, encore une fois, déceptif, entre guillemets, par rapport à ce qu'on connaît de la position américaine depuis maintenant des années.
Eh bien, merci beaucoup, Pascal Canfin, de toutes ces explications, ancien ministre délégué au développement et expert climat. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Climat, 30 questions pour comprendre la conférence de Paris, et d'ailleurs, à l'occasion de l'ouverture de la COP21, RFI vous proposera des émissions spéciales, notamment une émission spéciale d'appel sur l'actualité. Ce sera l'occasion pour vous tous de nous poser toutes vos questions sur les négociations, sur le réchauffement climatique. Vous pouvez d'ailleurs dès maintenant commencer à vous inscrire. Bonjour Adrien.
Bonjour.
Bienvenue, vous nous appelez de Nzérékoré, en Guinée, et vous avez des questions concernant la lutte contre l'apatridie.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tout le monde. J'avais appris sur les zones de la RFI, le rapport d'hier, sur les personnes apatrides dans le monde. C'est un rapport qui dit qu'à chaque 10 minutes, les enfants dans le monde. Un enfant dans le monde. Et ce rapport précise au même moment qu'en Côte d'Ivoire, il y aurait plus de 300 000 enfants apatrides. Ouais. À ce propos, j'ai deux questions. Qu'est-ce qui explique le chiffre énorme de la Côte d'Ivoire? Et la Côte d'Ivoire ne reconnaît-elle pas le droit des sols?
Oui, 300 000 enfants apatrides. En tout, il y aurait 700 000 apatrides en Côte d'Ivoire. Emmanuel Mitte, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. On a peu de temps avant de rendre l'antenne à la rédaction pour le journal. Vous êtes, vous, spécialiste de l'apatridie au Haut Commissariat pour les réfugiés, au bureau de l'Afrique de l'Ouest. Comment expliquer ce chiffre si important en Côte d'Ivoire?
Alors, tout d'abord, je précise que ce chiffre n'est pas le chiffre du HR. C'est un chiffre qui est avancé par le gouvernement ivoirien. Ce chiffre est une estimation et le HR considère que cette estimation est fondée. Elle est fondée parce que effectivement, il y a en Côte d'Ivoire de nombreux facteurs qui entraînent l'apatridie chez les enfants dès la naissance. Il y a d'abord les limitations de la loi sur la nationalité. L'octroi de la nationalité ivoirienne, il n'est pas basé sur le droit du sol, mais sur le droit du sang. Mmh. Autrement dit, la naissance en Côte d'Ivoire n'est pas suffisante pour obtenir la nationalité ivoirienne. Il faut encore démontrer que le parent est un ressortissant ivoirien. Et cela pose des problèmes pour ces enfants qui naissent en Côte d'Ivoire, de parents qui n'ont pas de nationalité, qui sont donc apatrides. Ces enfants seront donc apatrides dès leur naissance.
Ouais, alors il y a cette loi, et puis il y a des raisons également historiques. Emmanuel Mitte, est-ce que votre emploi du temps vous permet d'être avec nous dans 10 minutes?
C'est possible.
C'est possible, très bien. Bah, surtout, ne raccrochez pas. Adrien à Nzérékoré, faites de même, vous restez en ligne. Et on se retrouve juste après le journal pour la suite des explications donc sur ce phénomène de l'apatridie.